Voilà, bonjour à tous. C'est un privilège et une joie d'être avec vous, mais aussi une responsabilité, car quand on doit dispenser la parole de Dieu, on sent le poids d'une responsabilité sur nos épaules et sur nos cœurs. J'ai toujours un moment d'émotion quand j'arrive près de Genève, puisque de l'âge de 8 ans à l'âge de 20 ans, j'ai passé mon enfance, mon adolescence dans cette ville. Et puis j'ai aussi une émotion encore plus grande quand je vois le stade du FC Servette ici. Il était au Charmilles à l'époque et ça m'a rappelé une anecdote parce que j'étais gamin et j'avais pas les moyens d'entrer au stade. Alors j'avais appris que si un papa accompagnait son fils, eh bien il pouvait entrer au stade gratuitement. Et comme mon père n'aimait pas du tout le foot, alors j'allais à l'entrée du stade, je me mettais à côté d'un homme, très serré contre lui, et je faisais semblant d'être son fils, et on me laissait passer pour voir le match. Alors j'étais aussi un fan du HC Hockey Club, puis bien sûr que maintenant que votre pasteur en est l'aumônier, ça me donne encore plus d'intérêt pour ces clubs de mon enfance. Voilà, depuis lors, bien sûr, beaucoup de choses ont passé et je ne vais pas vous raconter ma vie ce matin, mais bien sûr, la dernière étape, c'était d'être établi à Montet pour implanter une église. Et maintenant, on pourrait dire que je suis un retraité non pratiquant car il y a encore beaucoup d'activités, mais je prends quand même un peu du bon temps pour la retraite. Si vous lisez les évangiles, vous allez voir qu'elles nous rapportent et nous rapportent de nombreuses déclarations de Jésus. Jésus fait des déclarations dans toutes sortes de domaines et de directions. Bien sûr, il parle de l'amour de son Père, de la vie éternelle, du péché, du pardon, de la justice, du jugement, du royaume de Dieu, de la fin des temps et bien d'autres choses encore. Et récemment, eh bien, j'ai été tout à nouveau interpellé par une déclaration de Jésus faite lors du sermon sur la montagne. Et c'est pourquoi je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 5, où nous lirons simplement 4 plutôt. Matthieu 5, à partir du verset 13. Matthieu 5, verset 13. « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Intéressant, n'est-ce pas? À qui Jésus s'adresse-t-il? Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Qui est concerné par ce « vous » La réponse est donnée au début du chapitre 5 de Matthieu. Quand Jésus dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Il ne s'adresse donc pas au monde, aux foules, comme dans d'autres récits de l'Évangile. Ici, Jésus s'adresse à ses disciples. Alors, vous êtes tous des érudits de la Bible, avec le pasteur que vous avez, mais je pose quand même cette question. Savons-nous ce qu'est vraiment un disciple? D'après le dictionnaire, le disciple est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître, qui fait partie de son école, c'est un élève. Et encore, c'est une personne qui suit l'exemple de quelqu'un, qu'il considère comme son maître à penser, qui adhère à une doctrine, une conception, qui devient un partisan, un fidèle, un adepte. S'il y a disciples, on me répétait ça quand j'étais jeune, s'il y a disciples, il y a une discipline. Et s'il y a une discipline, il y a un maître. On rencontre parfois des chrétiens qui sont bien disposés à confesser le Seigneur Jésus comme sauveur, mais qui sont plus réticents à le considérer comme maître, comme Seigneur. C'est-à-dire qu'il a, le maître et le Seigneur, il a un droit d'autorité sur ma vie. Et il n'y a pas très longtemps encore, une sœur de mon église me disait « Ah, j'ai de la peine à accepter Jésus comme Seigneur. » Dans l'ordre de mission que Jésus a prononcé, vous le connaissez par cœur, il n'est pas dit « Allez, faites de toutes les nations des convertis. » Mais « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » 15 fois dans les évangiles, nous trouvons l'expression « rabbi » à propos de Jésus, ce qui signifie « maître ». Et 119 fois, le mot « maître » apparaît dans l'ensemble du Nouveau Testament. Un auteur du siècle passé a écrit ceci, à propos de la condition de disciple, il dit « Aujourd'hui, je ne m'appartiens plus. Je suis lié à un maître » qu'il faudra servir sans défaillance. Mais ce maître, c'est Jésus, qui a poussé l'amour pour moi jusqu'aux humiliations de l'incarnation. Et dans un article intitulé « Qu'est-ce qu'un disciple ?», Jean-Pierre Gaulet, qui est un pasteur à la retraite, également dit « Se déclarer chrétien, c'est professer, croire et suivre Jésus. Dans le monde relativiste où nous sommes, il est absolument capital que tout chrétien soit au clair sur les implications d'une telle déclaration. » Bien sûr, Jésus lui-même a défini ce qu'est un disciple. Et dans l'évangile de Luc, il dit ceci, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Ainsi, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Alors d'emblée, c'est vrai, je dis que mon but ce matin, ce n'est pas de vous enseigner les conditions du disciple, c'est simplement de dire que quand Jésus prononce les paroles de Matthieu 5, il s'adresse à des disciples. Il s'adresse à des gens convertis à Jésus-Christ qui ont décidé de l'accepter comme Seigneur de leur vie. Et une question me brûle. Suis-je réellement un disciple de Christ? Êtes-vous réellement des disciples de Christ? Est-ce que vous reconnaissez Jésus-Christ comme le seul maître et seigneur de votre vie? Et alors, qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Il dit deux choses surprenantes dans les quelques versets que nous avons lus. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Waouh! Impressionnant cela. Vous, disciples de Jésus-Christ, vous êtes le sel de la terre. Vous n'êtes pas le sel de Ramadan encore. Vous n'êtes pas le sel de la ville de Genève ou du canton ou de la Suisse ou de la France. Vous êtes le sel de la terre. Jésus ne dit pas, vous devez être le sel de la terre. Vous devriez être le sel de la terre. Mais vous êtes le sel de la terre. C'est un fait acquis. C'est un fait acquis à la croix par Jésus-Christ qui nous a lavés de nos péchés et qui a fait de nous une nouvelle création, une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, c'est le sel de la terre. Le sel a joué un rôle important dans l'histoire de l'humanité. Le sel est connu depuis la préhistoire pour ses caractéristiques d'assaisonnement et de conservation des aliments. On a parlé longtemps, et il y a encore beaucoup d'écrits, sur les routes du sel, qui furent les grandes voies de communication, d'échange et d'acheminement du sel depuis l'Antiquité. Les routes du sel ont été maritimes, fluviales, terrestres, et comme le sel était taxé, on en faisait de la contrebande. C'est donc un produit de valeur. Un produit de valeur. Et Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Comme le sel de la terre, chers frères et sœurs, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Tout être humain a de la valeur aux yeux de Dieu. Mais quand il se tourne vers Jésus-Christ, un privilège plus grand lui est accordé, celui d'être enfant de Dieu et de pouvoir dire au Créateur, Père, Père céleste. Dans un groupe biblique, on étudiait le passage de l'évangile de Matthieu, que je viens de lire, et le responsable a posé la question, « À quoi sert le sel ?»« À moi !» « Je sais !» répondit une petite fille. « Le sel, ça sert à donner soif. » Sans doute se souvenait-elle du jour où la soupe était trop salée, où elle avait très soif. Et le témoignage des chrétiens, surtout de leur vie, doit créer en elle la soif de la parole de Dieu. Il est vrai que le chrétien est bien le sel de la terre. Dans la pratique, en cuisine, le sel permet d'assaisonner les plats, il donne de la saveur aux aliments. On remarque tout de suite quand un mets ou un plat n'est pas salé, à moins que vous soyez au régime sans sel, ce qui est regrettable. Le sel permet aussi la conservation des aliments par la diminution de l'activité de l'eau. Au Moyen-Âge, c'était le principal moyen de conserver des viandes et des poissons. Et aujourd'hui encore, dans certaines régions, et dans des pays comme en Afrique ou ailleurs, qui sont dépourvus d'appareils frigorifiques, on utilise encore le sel pour conserver viandes et poissons. De nos jours, on trouve aussi dans le commerce des produits salés, le hareng, la morue, certains légumes aussi. Le sel joue un rôle important aussi dans notre organisme. Je ne vais pas vous donner un cours de médecine, mais on peut noter également que l'excès de consommation ou pas du tout de consommation de sel peut avoir des effets négatifs sur notre santé. Il paraît que chaque année, des milliers de décès sont liés à l'excès de sel. Sa surconsommation est à l'origine d'une augmentation de la pression artérielle et entraîne à terme de nombreux problèmes de santé. Mais bien dosé, le sel est bon pour la santé. En résumé, le sel donne de la saveur aux aliments. Le monde dans lequel nous sommes est à la recherche de bonheur, de sécurité, de paix. Tout ce que la société propose n'apporte pas de réponse satisfaisante aux besoins profonds de l'être humain. Leur vie est souvent fade. C'est attrayant mais sans saveur. Étant le sel de la terre, nous, disciples de Christ, nous pouvons apporter de la saveur aux hommes d'ici-bas. Partout où les disciples de Christ sont présents, ils sont aussi des agents qui retiennent la corruption. Vous êtes le sel de la terre. Et Dieu vous appelle à freiner la décomposition morale de notre société. Quand je travaillais dans l'industrie, avant de devenir pasteur, dans l'atelier où je travaillais, Certaines conversations cessaient systématiquement quand j'arrivais. C'était des histoires grivoises, des histoires... Et ils disaient, mais quand Sam est là, on a meilleur temps de se taire. Et mon rôle, c'était finalement de freiner et de retenir la corruption. On l'a dit, la petite fille l'a déclaré, le sel sert à donner soif. Et peut-être que là aussi, il y a quelque chose d'important que nous avons à remplir. Si nous manquons de sel, notre organisme fonctionne mal. Si nous en consommons trop de même, il faut le juste équilibre, comme je viens de le dire. Mais si le sel que nous sommes agit dans notre société, il peut donner soif aux gens de notre entourage. On m'a eu dit quelque part, mais il y a quelque chose chez vous que j'envie. La sécurité, la paix, la joie, etc. Et en tant que sel de la terre, voulons-nous donner soif aux gens de notre génération de connaître ce que nous avons reçu de Christ? Bien sûr, là aussi il faut faire attention de garder l'équilibre. Parce que si nous avons trop de sel et que nous bombardons les gens avec nos versets bibliques, notre morale, notre esprit de jugement sur tout ce qu'ils font et ne font pas, je ne pense pas que le sel fera un bon effet. Mais bien dosé, il peut agir sans bruit et sans éclat. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et puis trop peu de sel amène cette déclaration incompréhensible de Jésus. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Alors il paraît, je n'ai pas fait l'expérience, mais il paraît qu'il est impossible chimiquement que le sel perde sa saveur. Mais il est possible, peut-être comme au temps de Jésus, que le sel qui était souvent extrait de la mer morte, mangé à des impuretés. Et il pouvait perdre sa saveur. Alors, comme Jésus le dit, ce sel-là, il ne serait plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Cela veut dire que le disciple, sel de la terre, ne remplit plus sa mission et qu'il n'est plus utile pour Dieu. Certains voulaient voir dans cette phrase l'idée qu'on pouvait perdre notre salut. Comprenez ici qu'il ne s'agit pas de notre salut, mais de notre mission de disciple de Christ à être le sel de la terre. Et à cet effet, je pourrais citer avec tristesse plusieurs exemples d'hommes et de femmes qui ont été disciples du Seigneur pendant des années et qui ont perdu leur saveur. Ils sont devenus du sel sans saveur. Pendant un temps, ils ont porté du fruit pour le royaume de Dieu. Certains étaient missionnaires, pasteurs, évangélistes, prédicateurs ou simplement disciples engagés dans leur église, mais ils ont perdu leur saveur et sont devenus inutiles pour Dieu. Et ces situations demeurent toujours un mystère. Mais c'est toujours aussi un avertissement pour nous à rester intimement liés au Seigneur Jésus dans notre communion avec lui par sa parole. Ou son esprit, et ne pas céder aux convoitises qui pourraient apparaître et nous détourner du chemin de la foi. Veillons sur nous-mêmes, jour après jour, pour rester fidèlement attachés au Seigneur et être en permanence le sel de la terre. De même, quand Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde », il n'a pas dit « Vous devriez être la lumière du monde ». Mais il dit, vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas, vous êtes devenu un peu plus lumineux que dans le passé depuis que vous êtes converti. Mais vous êtes la lumière du monde. Est-ce que nous nous rendons compte de ce que cela veut dire? Jésus nous fait un honneur extraordinaire et considérable en affirmant que nous sommes la lumière du monde. Jésus ne manque pas d'ambition quand il désigne ses disciples comme la lumière du monde. Et moi, Samuel ou Samy, comme notre frère nous l'a dit, un être humain insignifiant, parmi des milliards d'autres êtres humains, je suis la lumière du monde. Waouh ! Extraordinaire ! Mais comment concilier deux déclarations de Jésus à propos de la lumière ? Il a dit lui-même, Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et puis cette déclaration de Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Je crois que c'est assez simple à comprendre. Par l'Esprit Saint qui habite le cœur du croyant depuis le jour de sa conversion, celui qui est la lumière, Christ, devient lumière en moi. Nous sommes identifiés à Christ au point que la source de la lumière, Jésus, devient en nous, ses disciples, une multitude de petites lumières dans le monde. Et quand, la prochaine fois que vous passerez les rubasses, vous direz, je suis une petite lumière parmi cette foule qui passe ici, qui court au magasin, etc., etc. En Éphésiens 3, il est dit que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Dans la même ligne, Paul dit aux Éphésiens, « Autrefois, c'est-à-dire quand vous n'étiez pas chrétien, pas converti, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Et c'est là notre responsabilité. Vous êtes lumière. Mais ne restez pas statique. Marchez comme des enfants de lumière. Un enseignement complémentaire ressort de l'Épître aux Philippiens quand le même apôtre Paul dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. » Alors, pour illustrer son propos, Jésus déclare quatre choses à propos de la lumière. On l'a lu, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il est ici question de la lumière extérieure. En disant cela, Jésus nous enseigne que la lumière doit être vue de tous. Ça ne veut pas dire que vous allez sortir d'ici puis crier partout « Chez la lumière, chez la lumière, chez la lumière. » Non, non. On verra tout à l'heure ce que ça représente, pratiquement, d'être la lumière. Une ville illuminée ne peut échapper au regard des hommes. Elle nous montre aussi que la lumière, c'est un point de repère. Et la lumière dans la ville peut représenter cette église et bien d'autres églises fidèles à la parole de Dieu qui sont une lumière dans Genève. On sait que dans certains pays où sévit la persécution, les églises se retrouvent dans des lieux cachés, et parfois même tenus secrets, vous le savez. Ce n'est pas le cas chez nous. Ceux qui vont témoigner sur un marché, ou dans d'autres endroits, ou avec un magnifique concert de Noël. C'est la lumière. Et nous devons toujours réfléchir pour savoir comment rendre notre visibilité de chrétien évangélique dans les grandes villes. Comment rendre notre Église plus lumineuse? La deuxième chose que Jésus dit à propos de la lumière, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Luc parle même de la mettre sous le lit. Le boisseau, c'est une sorte de seau qui servait à mesurer des matières solides, comme le grain, la farine, Et ce n'est pas un bon usage de cacher la lumière avec quelque chose. S'il y aurait quelque chose dans ma vie qui cache la lumière, comme un boisseau sur mon âme, sur mon cœur, sur mon esprit, qui empêche la lumière de Jésus d'éclater. Et puis on la met sur le chandelier. Il est question ici, là, de lumière aussi à l'intérieur. Nous avons besoin d'être des lumières les uns par rapport aux autres. Ici, dans notre Église, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Rayonnons de la lumière de Christ les uns à l'égard des autres pour nous encourager. Si nous pénétrons dans une pièce obscure, on distingue les formes comme cela, les ombres, mais il n'y a rien d'attrayant. C'est comme un verre opaque. On allume une bougie, on tourne l'interrupteur, ou on allume une allumette, et nous sommes stupéfaits de voir la beauté des choses qui sont dans la maison. Le sel et la lumière sont bien différents l'un de l'autre. Ils en portent pourtant ceci en commun, c'est qu'ils parlent tous les deux d'un témoignage pour Dieu. Et parce que la corruption et les ténèbres au sens spirituel vont toujours ensemble, le Seigneur Jésus montre à ses disciples, dans cette double parabole, la double responsabilité, mais aussi le double besoin des hommes. Besoin de saveur, besoin de lumière. La lumière est la révélation de Dieu et de tous ses attributs. La lumière révèle qui est Dieu, sa souveraineté, sa puissance, son pouvoir, sa sagesse, sa bonté, sa grâce, sa miséricorde. Et c'est à nous de révéler qui est le Dieu créateur, le seul et unique Dieu au monde qui nous entoure. Paul priait pour les Colossiens, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Comment réaliser ce que Jésus dit ? Concrètement, comment mettre en pratique cette parole? Comment réaliser que je suis le sel de la terre, que je suis la lumière du monde? Les ténèbres de ce monde sont de plus en plus épaisses, moralement et spirituellement. La corruption n'a plus de limites. On entend des choses incroyables à travers les médias. Il y a les ténèbres de l'ignorance par rapport à Dieu. La majorité des êtres humains sont dans une totale ignorance par rapport à Dieu. Ils n'imaginent pas un instant qu'ils pourraient avoir des comptes à rendre à Dieu un jour. En parlant des méchants, le psalmiste dit « Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. » Et puis les scientifiques échafaudent des hypothèses dans un total refus de l'idée d'un Dieu créateur des cieux et de la terre. Et on les croit. Les nations et les chefs d'État agissent et décident comme si Dieu n'existait pas. Job disait, il enlève l'intelligence aux chefs des peuples, il les fait errer dans les déserts, sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres et ne voit pas clair, il les fait errer comme des gens ivres. Et puis il y a les ténèbres de l'iniquité, de l'injustice, de l'immoralité. Après avoir parlé de ce qui est arrivé à Sodome et Gomorre, qui ont été détruites à cause de l'immoralité qui régnait dans ces villes, Jude écrit, malgré cela, malgré le fait qu'on sait ces choses, qu'elles sont historiquement prouvées. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois bord, déracinés, des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Comment pouvons-nous être le sel de la terre ? On l'a déjà dit, nous sommes les sels de la terre en retenant la corruption. Nous sommes aussi le sel de la terre en donnant de la saveur à ceux qui nous entourent. Cela m'a fait plaisir il y a bien des années quand un des voisins de notre rue s'est approché de moi un soir et il me dit « Ça fait un moment avec ma femme qu'on vous observe, vous devez être chrétien ». Une petite lumière, un petit lumignon qui a permis d'être vu des autres. Et puis, être la lumière du monde. Étant la lumière du monde, nous sommes appelés, comme on l'a lu, à pratiquer des bonnes œuvres. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que c'est que pratiquer ces bonnes œuvres ? Premièrement, c'est être rempli de l'amour de Dieu pour mon prochain, pour mon frère, pour ma sœur en Christ. Deuxièmement, c'est agir envers quiconque avec compassion et miséricorde. Ensuite, c'est manifester de la générosité et de la bienveillance. C'est pratiquer la justice et l'honnêteté. C'est être vrai et toujours dire la vérité. C'est se comporter comme un serviteur. En fait, c'est Jésus. C'est simplement imiter Jésus de pratiquer les œuvres de la lumière. Est-ce que nous voulons être cela? Quelqu'un a dit ou a écrit, « Nous sommes disciples de Christ ». La première page de l'Évangile que les gens liront. Ou bien ils seront convaincus de ce que nous sommes, ou bien ils resteront indifférents à l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions ensemble. Quelle grâce, Seigneur notre Dieu, de considérer ces déclarations que tu as faites. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et Seigneur, nous n'avons pas à travailler, à nous appliquer pour faire cela. Nous avons simplement à l'accepter par la foi. Et ce matin, j'aimerais te demander pour moi, Seigneur, permets que je sois dans mon entourage le sel de la terre. Permets, Seigneur, dans ta grâce, que là où je suis et partout où je passe, je puisse être la lumière du monde qui communique la lumière de Christ. Et que cette grâce nous soit accordée à tous. Pour la gloire et le nom du nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup de votre attention.